sur Via 95. C'est le parc en 30 minutes. L'actualité et le déploiement du parc industriel et portuaire de Bécancour. Et on répond à vos questions. Tout ça en 30 minutes. Voici Marc Rochette.
Bonjour tout le monde et bienvenue à votre émission Le Parc en 30 minutes, présentée en collaboration avec la société du Parc industriel et portuaire de Bécancour. Et comme toujours, chaque lundi midi, j'ai le plaisir de saluer son président-directeur général, Donald Olivier. Bonjour, Donald.
Bonjour, Marc.
Alors, avant de tomber dans notre sujet du jour, j'aime bien rappeler à nos auditeurs et auditrices comment transmettre leurs questions, d'ailleurs. Il suffit d'aller tout simplement sur le site via.fm, onglet Le Parc en 30 minutes, cliquer sur « Poser vos questions » ou sinon par texto. Et aussi par téléphone au 819-519-9050, 819-519-9050. On vous invite à le faire durant la semaine, mais durant l'émission, n'hésitez pas à nous contacter. Puis la deuxième partie de l'émission, on répond à vos questions. Et donc, ce midi, on a déjà annoncé qu'on parlerait d'environnement. Donc déjà, c'est un sujet intéressant. Mais on va parler d'un plan directeur biophilique pour le parc industriel. Je dois t'avouer, Donald, quand j'ai appris que c'était directeur biophilique, ça m'a intrigué. C'est quoi ça? Qu'est-ce que ça mange en hiver? C'est là depuis quand ce guide-là, ce plan-là? Donc, je te laisse aller là-dessus. Est-ce que c'est récent d'un, mais qu'est-ce que ça mange en hiver, là, la biophilie ou le plan directeur biophilique?
Ben écoute, je me posais aussi la question quand je suis arrivé, puis parce que on souhaite être un parc industriel modèle à plusieurs niveaux, mais aussi au niveau de l'environnement. Et puis, cette orientation-là d'avoir un plan directeur biophilique a été aussi arrimée avec le ministère de l'Économie. Donc, c'était prévu dans le plan d'aller vers ça.
D'accord.
Et puis, la biophilie, si on essaye de simplifier ça, c'est le besoin de l'humain d'être en contact avec la nature.
Mm-hmm.
Donc, un besoin, on se sent tous mieux, c'est bon pour la santé physique, mentale et tout ça. Fait qu'on s'est dit, on va tenter de se donner un plan directeur. Et il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont de l'expertise dans ce créneau-là. On a utilisé une entreprise externe, donc une entreprise qui avait déjà d'expérience là-dedans, Michel Rousseau, architecte paysagiste, qui nous a donné un fier coup de main là-dedans avec son équipe. Et puis, on en est arrivé à donner certaines pistes, certaines orientations dans ce plan directeur biophilique. On a lancé l'étude de quelque part, je suis arrivé mai 2022, probablement à l'automne 2022, on a lancé ça, puis ça a pris pratiquement 12 mois pour avoir des résultats de ce plan directeur-là.
Est-ce que c'est un choix de la Société du Parc ou c'est une obligation gouvernementale?
Carrément un choix de la Société du Parc. Il faut voir qu'on relève du ministère de l'Économie,
ouais.
Mais le ministère de l'Économie et Société du Parc, c'était vraiment une orientation, un désir d'aller vers ça. Et puis, le chiffre qui est véhiculé souvent pour tout ce qu'on fait autour de la filière batterie en termes d'infrastructure, c'est 350 millions. Mais clairement, on a réservé des sommes là-dedans pour faire des projets biophiliques. Donc, on va en nommer quelques exemples de ce que ça pourrait être. Et puis, le projet, le 350 millions, oui, on veut aider à ce que des usines s'implantent, construire des routes, des rails, enfouir des conduites. On veut que les entreprises aient du succès, mais on souhaite que pour les employés, mais les citoyens, qu'il y ait autre chose. Avoir les usines, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Il faut avoir d'autres initiatives autour pour être un parc industriel modèle.
Parce qu'on va le voir dans l'émission, là, je pense que ça permet d'offrir de meilleurs espaces de travail, entre autres. Ça procure une meilleure rétention de la main-d'œuvre, une meilleure attraction, une meilleure performance. Donc, beaucoup d'avantages qu'on va voir durant l'émission là, d'implanter ce plan-là.
Oui, effectivement. Puis le plan, on va donner quelques exemples, mais c'était important pour nous de ne pas le faire seul dans notre coin. Donc, évidemment, la ville de Bécancour était autour de la table. La communauté Abénaki était autour de la table aussi. Des organismes environnementaux aussi qui étaient avec nous pour tenter de donner des lignes directrices à tout ça.
Donc, on va plonger dans le sujet comme tel. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ce fameux plan directeur biophilique? C'est quoi les intentions de la Société du Parc sur son territoire?
Il y a comme certains éléments. C'est sûr que le parc, c'est un zonage industriel lourd. Fait que donc, il y a quand même certaines limites ou nuances de ce qu'on peut faire. Mais clairement, il y a deux éléments majeurs. T'sais, il y en a plus que ça, mais ceux qui vont avoir un impact pour les citoyens.
Mm-hmm.
Je vais en nommer deux, puis il y en a plus, puis je donnerai d'autres exemples. Mais assez rapidement, quand on a commencé tout ça, le développement, On a fermé la piste cyclable assez rapidement pour être capable de faire nos travaux. De redonner une piste cyclable digne de ce nom au milieu, aux citoyens puis au travers des usines, ça en fait partie. Donc, c'est un élément, avoir une piste cyclable en milieu naturel. Il y a déjà eu des tracés qui ont été proposés. Il y a déjà eu des rencontres avec des citoyens pour vraiment tenter de saisir, de commenter le tracé, de voir un peu ce que ça pourrait inclure, cette piste cyclable-là. Donc, ça c'est un exemple d'un projet biophilique. Évidemment, il y a d'autres initiatives, je vais dire, plus simples, de replanter des arbres dans le parc, d'avoir peut-être des aires ou des endroits où est-ce qu'il y aurait plus de verdure. Ça, je te dirais qu'on va attendre un petit peu de voir comment le ministère des Transports se positionne sur la fameuse autoroute 30. Mm-hmm. Donc, ce qu'on souhaiterait, moi, clairement, j'aimerais ça que quand on traverse le parc d'est en ouest, qu'on ait plus l'impression d'être dans une forêt que dans un parc industriel. Mais assurément, on va attendre de voir est-ce que c'est un élargissement, est-ce que c'est quatre voies séparées, tout ça, parce que ça serait dommage de se lancer à planter des arbres et de les recouper dans quelques années.
Donc, l'île Montesson?
Oui, effectivement, ça, pour les gens, les gens parlent beaucoup de la petite Floride. Hein, au bout de l'île Montesson, c'est une infime portion de l'île Montesson, la petite Floride. La plage, mais aussi, il y a des résidences privées au bout de la petite Floride. Mais l'île Montesson, c'est vraiment gigantesque. Donc, ce qu'on souhaite, c'est vraiment de donner un statut de conservation à l'île Montesson qui appartient à la Société du Parc. Donc, cette île-là, à 95% des terrains appartiennent à la SPIB. Et puis, on a déjà 50 hectares d'air de conservation dans le parc industriel. Mais là, on veut monter à 250 hectares. Oh. Donc, 250 hectares, c'est vraiment un chiffre important parce qu'il y a des parcs industriels qui n'ont même pas cette taille-là.
Ah, c'est ça.
Nous, on a 7000 hectares, dont 2700 de zonage industriel lourd, mais on aurait un 250 hectares à terme. Là. Puis quand je dis à terme, là, c'est probablement que dans les 12 prochains mois, on est capable de confirmer le 200 hectares additionnel. Et c'est sûr qu'une fois ce 200 hectares-là additionnel confirmé, ben, c'est pas nécessairement suffisant de dire on conserve ces 200 hectares-là. Il faut discuter avec le milieu puis voir un peu qu'est-ce qu'on pourrait faire parce que l'idée, c'est aussi de donner accès aux citoyens.
Mm-hmm. Donc, plan directeur biophilique pour la Société du Parc sur son territoire, mais aussi vous avez produit un guide d'implantation. Peux-tu nous en parler de ce guide-là?
Oui, puis peut-être juste pour revenir sur Montesson, l'idée, c'est vraiment d'embarquer le public aussi là-dedans parce qu'il y a des gens qui sont au bout qui pourraient avoir des préoccupations face à tout ça. Il faut que ce soit un projet intéressant pour le milieu. Donc, sentier pédestre, sentier de vélo et tout ça qui pourrait être aménagé sur cette île-là.
Donc, très bonne précision. Puis donc, le guide d'implantation donc que vous avez produit... Ça, c'est un guide d'implantation pour les usines existantes, les futures usines?
Un mélange des deux, mais je dirais que la motivation, c'est que quand je suis arrivé en 2022 en poste, bon, les usines qui arrivent posent la question quelles règles municipales on doit suivre, quelles règles municipales on doit suivre, sont habitués de respecter des règles municipales. Bon, il y en avait quand même quelques-unes, mais pas tant que ça, parce que, tu sais, dans l'industriel, tous les projets sont différents, donc c'est difficile d'avoir des standards. Fait qu'avec la ville, on a convenu qu'on prenait un aliment, on a fait ça vraiment avec la ville de Bécancour. L'initiative, c'est de tenter d'avoir un guide d'implantation, c'est-à-dire de promouvoir les bonnes pratiques. Promouvoir les bonnes pratiques à plusieurs niveaux. À plusieurs niveaux, évidemment, je donne des exemples simples, mais tu sais, on souhaiterait tous que les usines gardent une portion d'arbres sur leur terrain, de faire attention aux couleurs des bâtiments, tu sais, pas aller avec des bâtiments avec des couleurs qui absorbent la chaleur. On peut-tu avoir des toitures vertes, différents espaces pour les employés? Fait que c'est toutes sortes d'initiatives qui ont été discutées et puis qui ont été élaborées. Et puis, dis-toi que chaque entreprise qui arrive maintenant, on leur demande de se conformer à ce guide-là. Et puis, ils ont un certain pointage à obtenir. Donc, on a plein de critères. On essaie de lui donner de la latitude. Donc, quelqu'un qui a un système d'économie d'énergie pour le chauffage de ses bâtiments, des stationnements drainants pour éviter... pour être capable d'absorber les pluies importantes, être sûr de minimiser les déversements d'un cours d'eau. Donc, c'est toutes sortes d'éléments qui peuvent faire en sorte que l'entreprise va cumuler des points. Et puis, si l'entreprise n'a pas cumulé suffisamment de points, bien, ce qu'on lui demande, c'est d'investir dans un projet local dans la communauté.
Donc, est-ce que ça, bon, il s'ensuit une certification ou quoi, pas nécessairement?
Pour l'instant, on n'est pas allé dans la certification. On est vraiment dans le mode qu'on leur demande d'eux, puis les entreprises collaborent. La ville aussi, récemment, a quand même pris certaines portions du guide puis les a converties en règlement. Donc, il y a certains éléments que maintenant les entreprises n'ont pas le choix, qui ont été convertis dans le règlement. L'idée de départ, c'était davantage d'amener ça sous un angle positif puis de les motiver à faire des projets qui font du sens, autant visuellement qui s'insèrent bien dans le milieu.
Donc, quand on parle du guide, ça touche tant l'utilisation du terrain, l'aménagement du terrain, le bâti intégré, les stationnements, tu en as parlé.
Ouais, ouais.
Même, je trouvais ça intéressant, la découverte éventuelle d'artefacts. Qu'est-ce qu'on fait avec ça?
Oui, effectivement, parce qu'en tout début de projet, c'est ce qu'on demande aux entreprises de faire une recherche, de s'assurer qu'il n'y aurait pas parce que, tu sais, les Abénakis sont arrivés, c'est une région qu'ils ont occupée, et puis s'assurer qu'il n'y a pas d'artefacts, ou en tout cas de les gérer adéquatement s'il y en a. Là. Et puis, c'est quand même une première au Québec. Tu sais, on en parle là aujourd'hui, puis on n'en fait pas grand éclat, dans le sens qu'on n'est pas là pour s'auto-promouvoir. Mais c'est important que les gens comprennent que ça n'existe pas ailleurs. Mmh. Donc, ça n'existe pas. On a fait une présentation au début mai à Lévis sur ça. Puis c'est quand même nouveau d'avoir des guides dans ce sens-là. Puis c'est cohérent avec le désir du gouvernement puis de la société du parc de « oui, on fait du développement industriel, puis on doit le dire, là, c'est assez intense là, avec tout ce qui se passe. » Mais ce qu'on souhaite, c'est que ce soit un parc industriel modèle. De ne pas juste mettre l'argent sur les infrastructures au service des entreprises, mais être sûr que ça fasse du sens globalement, puis au point de vue de l'environnement, que les gens aussi, que ce soit intéressant de traverser le parc en voiture, à vélo ou autre.
On veut aussi minimiser les impacts négatifs des travaux sur l'environnement immédiat. Des matériaux issus des déconstructions aussi, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Donc, il y a beaucoup de matériel.
Oui, ça fait partie des critères. T'sais, ils peuvent cumuler jusqu'à 60 points, puis ce qu'on demande, c'est un pourcentage de ces points-là. Et puis, pourquoi qu'on est allé de cette façon-là, c'est que, tu sais, puis les gens le voient quand ils parlent, chaque projet industriel est un peu différent. Donc, c'était difficile d'être très, très rigide. Fait que donc, on est conscient que chaque industriel peut avoir des particularités. Ce qu'on leur demande, c'est un résultat en bout de ligne. Un résultat d'avoir un projet, peu importe qu'ils aient cumulé leurs points en fonction de tel critère. Au global, à la fin, ils doivent avoir cumulé des points qui font en sorte que leur projet fait du sens au niveau environnemental.
Là, le guide d'implantation, il existe déjà. Est-ce qu'il a déjà été utilisé ou pas encore?
Il est utilisé. Les entreprises qui sont en train de construire, le guide a été sorti un peu après. Fait qu'on essaie de les amener dedans. Mais dites-vous qu'à chaque fois qu'on veut un terrain, dorénavant, ça fait partie des conditions. Donc, c'est les gens qui contractent des options pour éventuellement construire, il y a plein de conditions à remplir, là, donc à peu près une dizaine de conditions, évidemment, d'obtenir les permis pour être capable de construire, d'occuper au moins 60% du terrain. Mais le guide d'implantation, ça fait partie des critères maintenant. Donc, les gens ne pourront pas passer à côté.
Comment c'est accueilli par les promoteurs?
Très bien, bien, parce que c'est pas rigide dans le sens qu'on sait que chaque projet industriel est différent. Fait que donc, ils voient qu'ils peuvent cumuler des points d'une façon ou d'une autre. Et puis, ils étaient à la recherche de balises, hein? C'est donc, quand ils nous questionnaient est-ce qu'il y a des règles, des contraintes à respecter, tout ça, c'est parce qu'ils étaient à la recherche de balises, sont habitués à avoir des balises. Donc là, on vient d'en créer. Comme je vous disais, il y en a certains qui ont été convertis. Dans tout le guide, il y a peut-être le tiers qui a été converti en règlement de la ville, mais il reste quand même que dans le deux tiers, ils ont un choix là-dedans d'initier certaines initiatives ou pas.
Fort intéressant, puis d'ailleurs, on va continuer après la pause à parler de tout ça, dont, entre autres, de la destruction ou non des milieux humides, de quoi que ce soit. Donc, on invite les gens, on a déjà même commencé à recevoir des questions, on invite les gens à continuer à nous écrire, même pendant la pause, à téléphoner aussi à 819-519-9050, 819-519-9050, ou nous écrire, aller sur le site via.fm onglet Le Parc en 30 minutes, et cliquer sur « Poser vos questions ». Et on revient après la pause pour répondre à vos questions.
De retour à l'émission Le Parc en 30 minutes avec Marc Rochette.
Nous voilà de retour avec notre invité hebdomadaire, Donald Olivier, de la Société du Parc industriel. On parle du plan directeur biophilique, mais avant de retomber dans notre sujet, on a reçu deux questions pendant la pause. Donc, c'est vraiment, on apprécie beaucoup, chers auditeurs, auditrices, que vous preniez l'habitude de nous écrire et de nous poser vos questions. Première question qui nous vient par texto, donc on n'a pas d'identification. Bonjour, est-ce que vous savez quand les travaux seront finis sur l'autoroute 30 près de l'Arena? Est-ce que ça va recommencer après l'hiver? Merci et bonne journée.
Fait que j'imagine que je ne fais pas juste répondre oui, je le sais. Donc, oui, les travaux vont très bien. Ben, moi, on arrive du bureau, puis il n'y a plus de machine roulourde, donc à l'intersection, la première lumière là, près de l'Arena. La machinerie a quitté, ils sont en train de travailler les feux de circulation. Donc, ce que le ministère des Transports nous disait, c'était que ce serait prêt avant la période des fêtes. C'est ce qui va arriver. De notre côté, la Société du Parc, nous, on faisait la voie de service au sud.
D'accord.
Nous, de notre côté, tout est pavé. On n'était pas sûr d'être capable de paver cette année. On était capable de donner nos deux couches de pavage. Wow. C'est fait. Le ministère des Transports a aussi réussi à paver. Ça fait qu'ils sont vraiment dans les derniers travaux de cette intersection-là, puis c'est imminent, là, ça sera assurément un cadeau de Noël.
Oui, c'est ça, des bonnes nouvelles qui s'en viennent côté-là. Ouais. Une autre question qui nous provient de Yvette Sirène. Yvette Sirène, donc de Bécancourt, je me présume. Yvette Sirène qui nous pose la question, bon, c'est beau d'avoir des arbres, etc., de parler d'écologie, mais bon, avec tout ce qui se passe à Bécancourt, besoin de construction de maisons, de la population main-d'œuvre, elle se demande, est-ce qu'il y aura des espaces qui seront gardés pour des commerces de proximité?
Ben, écoutez, c'est sûr que, mettons, la question est bonne, la question de Mme Sirène est bonne. La Société du Parc ne se lancera pas à développer ça, dans le sens que ce n'est pas nécessairement notre rôle, on est plus là pour développer les industries. Mais peut-être juste dire aux gens, mettons, la fameuse voie de service là, qui va se connecter sur le boulevard Bécancourt, si Mme Sirène est de Bécancourt, probablement qu'elle est capable de visualiser ça, c'est qu'il y a des terrains qui appartiennent à la ville, il y en a qui appartiennent à la Société du Parc, et assurément, la Société du Parc n'a pas prévu faire de développement industriel dans cette zone-là. Donc, c'est possiblement, il y a probablement des terrains qui pourraient être utilisés pour faire du développement comme il est amené. Évidemment, pharmacie ou des services de proximité comme ça. Moi, je vous dirais qu'en termes de terrain, là, c'est sûr que si la ville, on a déjà eu des discussions, la ville nous approche, il y a certains terrains qui nous appartiennent, qui aimeraient qu'ils soient mis en contribution pour des projets comme ça, c'est sûr qu'on va être là. La réalité, c'est que ça prend des cas d'affaires qui se tiennent. Fait que donc, l'entreprise, la pharmacie qui veut venir s'établir à Bécancourt, oui, les citoyens veulent une pharmacie, mais la pharmacie va regarder, je suis capable de faire mes frais, je pense-tu que j'ai assez de volume? Fait que tous les petits commerces qui vont s'établir, même si c'est plus petit qu'une grosse usine, ils se posent toute cette question-là, je suis capable d'avoir la rentabilité? Mais assurément, je pense que la SPIB, on ne sera pas le leader, mais on peut être un partenaire pour tenter de trouver des options sur les terrains.
Et pour du commerce, il faudrait des changements de zonage inévitables?
Pas nécessairement sur les terrains à l'ouest. Évidemment, c'est pas possible dans le cœur du parc. Okay. Dans le cœur du parc industriel, là, c'est du zonage industriel lourd, puis c'est vraiment des entreprises, des industries qui peuvent être là. Mais du côté ouest, près de la première lumière, près de l'aréna, il y a des terrains à la ville, des terrains à la SPIB. Fait que ça pourrait peut-être être mis à contribution pour des initiatives commerciales de ce type-là.
Alors, merci pour les questions. Merci pour les réponses aussi, Donald. Donc, bien apprécié. On retourne donc dans notre sujet du jour avec le plan directeur biophilique. Puis on voulait aussi parler, dans quelle mesure on se préoccupe de la destruction des milieux humides à la Société du Parc?
Bien, et ce qui est sûr, c'est qu'on a fait très tôt dans le processus avec le ministère de l'Environnement de regarder les endroits qui avaient le plus de valeur. Donc, parce que les gens, c'est pas tout le monde qui s'en souviennent, mais dans les années 60, quand ça a été créé, le parc industriel, c'était majoritairement des terres agricoles. Donc, les terrains du côté sud et même nord, en partie, de l'autoroute, c'était des anciennes terres agricoles, puis où ce que les gens voient des arbres, là, s'ils regardent comme il faut, ils vont voir que les arbres sont très bien plantés en rangée.
Ouais.
Donc, c'est des arbres que la Société du Parc a replantés au fil des ans. La réalité, c'est que bien que c'était des terres agricoles il y a 60 ans, c'est que la nature a repris un peu ses droits, et il y a des milieux humides. Fait que donc, clairement, les projets actuels, donc les projets qui sont là, il y a eu des milieux humides qui ont été affectés. C'était beaucoup des milieux humides de faible qualité. Donc, c'est ce qui fait qu'on a réussi à avancer quand même de bonne façon avec le ministère et on a une séquence de développement avec le ministère. On a convenu que s'il y a des milieux, dans un exemple, Montesson, ce secteur-là, il y a des endroits qu'on ne veut pas développer, mais dans les zones développables industrielles, on a convenu avec le ministère qu'il y avait une séquence de développement. Donc, on commence par les endroits où les milieux sont de faible qualité et après ça, on va voir jusqu'où on va dans ce développement-là. Mais c'est clair qu'il y en a des impacts. Et c'est pour ça aussi qu'on veut tenter de garder des milieux où est-ce qu'il n'y aura pas de développement. Parce que on a racheté les terrains de Norsk Hydro l'an passé, mm-hmm. mais il y a une grande portion des terrains de Norsk Hydro qu'on a rachetés, qu'on a zéro ambition de les développer. C'est carrément pour tenter d'avoir des zones de non-développement où est-ce que la biodiversité est plus importante, qu'on va garder les terrains en état.
Donc, il y a vraiment un souci, là.
Ben, il y a un souci, mais tu sais, de l'autre côté, je peux pas, faut se dire les vraies choses. Ouais. C'est, il y en a des milieux humides affectés. Il y a des compensations qui sont versées au gouvernement pour ces pertes-là. L'enjeu que le gouvernement a, puis on aimerait faire partie de la solution, c'est que je pense qu'il était rendu autour de 100 millions pour l'ensemble du Québec là, de fonds dans ce qu'ils ont ramassé. Puis ce 100 millions-là est là pour recréer des milieux humides. Fait que nous, on a déjà des projets dans le parc où est-ce qu'on pourrait recréer des milieux humides. Et puis, mais c'est un peu difficile d'avoir du succès avec ces projets-là. Fait que, dans le fond, il y a de quoi à faire aussi pour recréer des milieux humides dans le parc, mais aussi dans le bassin versant de la rivière Bécancour.
Si on parle de la qualité de l'air, je crois qu'il y a un projet de surveillance de la qualité de l'air.
On est en train de le faire. Écoute, histoire courte, là, quand je suis arrivé en poste, c'est la même été que la fonderie Horn. Ça a été très tendu avec les données que les citoyens avaient amenées. Fait que moi, quand je suis arrivé, j'ai dit « Oh, OK, faut vraiment faire les choses différemment. » Donc, ce qu'on a fait, c'est que, bon, moi, j'ai fait différents trucs dans ma carrière, dont je me suis occupé de fermer Gentilly 2. Et puis, dans le nucléaire, c'est réglementé d'avoir des programmes de surveillance environnementale. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est inspiré un peu de ça. On est en train de le déployer. C'est qu'il faut comprendre que chaque usine, tu sais, s'il y a 20 usines, chaque usine est responsable d'aller chercher ses permis. Puis, l'ASPIB, on n'a rien à voir là-dedans. C'est eux qui doivent aller chercher leur permis pour construire. C'est eux qui doivent aller chercher leur permis pour opérer. Puis, nous, c'est pas notre rôle de les surveiller. Mais cela étant dit, ce qu'on a proposé aux entreprises du parc, c'est de faire une vigie 360 degrés. D'accord. Donc, de mettre 4 stations de mesure. Ben, c'est le résultat de l'étude, finalement. Donc, d'implanter 4 stations de mesure, 3 au sud et 1 au nord à Champlain. Et puis, on a étudié les contaminants d'intérêt qui devaient être mesurés. Puis, la firme nous a recommandé des endroits stratégiques où les mettre. Et puis, l'appel d'offres a fermé il y a 2 semaines. On est en train d'installer ces stations-là.
Wow.
Et puis, je vous dirais, l'approche qui a été prise, c'est que la société du parc aurait pu payer ça seul. Là, c'est de l'ordre de peut-être de 150 000 $ pour la première année, puis ça va être à peu près ça à chaque année. Mais on souhaitait que les entreprises du parc fassent équipe avec nous. Fait que moi, j'ai amené l'idée que si l'ASPIB était seul, on payait, mais si on était 2, on divisait en 2. Si on était 3, on divisait en 3 la facture. Et ça a fini qu'à terme, il y a 15 entreprises qui ont embarqué. Donc, les entreprises ont embarqué vraiment assez facilement là-dedans pour absorber les dépenses de tout ça. Et à terme, on va faire de la mesure des contaminants, mais pas le souhait. Ce qu'on va faire réellement, c'est de rendre disponibles les données au public. Quand je vous disais qu'on s'est inspiré du nucléaire, c'est que, bien qu'on n'ait pas tenu de le faire, c'est que tu cumules des données pendant l'année, une entreprise indépendante qui fait l'analyse et tu livres les résultats au public. Donc, s'il y a une situation qui commence à se corser, on va la voir venir. Puis si on est en contrôle, ben on va être capable de l'attester qu'on est en contrôle. Et puis que le développement ou que les industries opèrent adéquatement.
Donc, c'est une initiative qui est susceptible de rassurer la population.
Bien, je pense assurément. Puis encore là, on c'est de quoi qui est unique au Québec.
Ben oui,
c'est de quoi qui est unique au Québec. Donc, quand je dis qu'on souhaite être un parc modèle, ben j'ai parlé à quelques parcs, puis je les nommerai pas, là, mais tu sais, qui me disaient qu'ils avaient envisagé d'eux, puis ils ont reculé quand ils ont vu les coûts. Quand ils ont vu les coûts d'un maintien comme ça chaque année. Moi, l'approche que j'ai prise, j'ai les entreprises qui veulent être des bons pères de famille, agir en bon père, en bon mère de famille, je leur ai ni plus ni moins que demandé comme on dit, il faut que les bottines suivent les babines.
Oui.
Donc, et puis, ils ont quand même embarqué assez facilement. Ça fait que c'est pour ça que c'est une initiative unique, que ça se fait pas ailleurs au Québec. Et puis, les entreprises sont partie prenante non seulement dans la réflexion, mais dans le paiement des sommes annuelles pour maintenir ce programme-là.
Y a-t-il d'autres projets par rapport au sol, à l'eau, des projets similaires de surveillance ou pas nécessairement? Là?
Moi, je te dirais, l'approche qu'on a prise, c'était de travailler la qualité de l'air en premier. Et puis, assurément, l'eau suivra. L'eau suivra parce qu'il peut y avoir des rejets. Puis c'est quand même différent au niveau de la vigie, au niveau de l'eau de surface. Mais c'est quoi qu'on va vouloir regarder? On ne peut pas tout faire en même temps. Mm-hmm. On a choisi de séquencer qualité de l'air et après ça, qualité de l'eau. Et je parlais des entreprises qui ont embarqué dans la réflexion, mais il faut que les gens sachent aussi que le ministère de l'Environnement est avec nous dans cette réflexion-là, le ministère de la Santé. La ville de Bécancour était évidemment là, les Abénaki aussi. Fait que donc, tout ce beau monde-là ont pu voir un peu c'était quoi les résultats de l'étude, ces contaminants, puis tout ça. Et puis, ça nous a amené à avoir un plan qui va faire du sens. Et puis, évidemment, comme PDG, moi, je ne veux pas avoir de surprise. Hein. Tu sais, c'est une situation qui est préoccupante dans le parc. Je ne veux pas avoir de surprise. Et puis, s'il y a une situation qui, si tout est en contrôle, je pense que ça mérite d'être dit. Et s'il y a des situations préoccupantes, bien, ça mérite. On n'a pas le choix de les adresser aussi. Fait que c'est sûr que ça va créer, selon moi, de la confiance auprès de tout ce qui se passe. Là.
Peut-être en terminant, parce que le temps file, la Société du Parc collabore avec le ministère de l'Environnement, de toute façon. Ouais. C'est pas parce que vous êtes une société d'État que vous avez un passe-droit de...
Non,
c'est ça. Donc, vous collaborez vraiment avec le ministère d'Environnement.
Écoute, on est une organisation comme n'importe quelle autre, et puis on a les règles à respecter, des études à démontrer, et puis faut comme être un exemple, fait qu'on a tout sauf des passe-droits. Mm-hmm. Et puis, on a appris qu'il faut vraiment... On a quand même... Ça va quand même bien en termes de délai pour obtenir nos permis, parce qu'on a compris assez vite que plus nos dossiers étaient de qualité, plus les dossiers qu'on déposait étaient de qualité, plus on avait de chance de les obtenir dans les délais. Parce que ceux qui connaissent ça, c'est les fameux délais. Quand on a des questions du ministère, tous les délais arrêtent. Là. Fait que donc, nous, on essaye d'avoir des dossiers le plus complet possible au jour 1. Et puis, ça nous aide à avoir les permis dans les délais de 75 jours.
On aurait pu aussi souligner la collaboration avec des organismes gouvernementaux, des ONG, etc., pour promouvoir des pratiques environnementales durables. On n'aura pas le temps de le faire, mais je pense que c'est une réalité aussi rapidement.
Écoutez, c'est le 22 mai. On a fait venir toutes les organisations environnementales. On a présenté ce qu'on faisait. Les entreprises du parc et ceux à venir sont venus. Fait que donc, c'est assez unique, ça aussi, là, d'oser mettre tous les acteurs environnementaux autour d'une table puis d'avoir des discussions. Mais ça nous sert bien dans le sens que c'est transparent puis on a l'occasion d'avoir le point de vue de tout ce beau monde-là en même temps.
Je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon.
Ça a été vite, hein?
Oui, puis on a eu des questions, c'est fantastique. On a parlé de ce plan directeur biophilique. Donc, merci beaucoup, Donald, encore pour ta disponibilité, pour être encore là, pour nous expliquer ce qui se passe dans le parc, mais aussi répondre aux questions. La semaine prochaine, ne manquez pas notre autre émission. On aura des invités en studio. Je pense que les gens les connaissent. Un certain Jean-Guy Dubois et Maurice Richard.
Oui, des voix connues.
Oui, c'est ça. Et tu seras là aussi avec nous pour parler du parc, de ce qui s'est fait, mais de ce qui s'en vient aussi. Alors, soyez les nôtres lundi prochain pour Le Parc en 30 minutes. Bonne semaine à tous et posez vos questions d'ici là à 819-519-9050, 819-519-9050, ou vous allez sur le site web pour l'onglet Le Parc en 30 minutes sur via.fm. Bonne semaine!